C'est un beau jour. J'ai encore froid aux pieds, mais ça va. Ça se réchauffe. Merci pour ceux qui ont fait le feu. Qui c'est qui a fait le feu? C'est personne qui a fait le feu. Formidable, il s'est fait tout seul. Je vois pas. Merci en tout cas. Dieu vous bénisse. Et puis, aujourd'hui, c'est une belle journée. Nous avons des invités. Notre frère et notre sœur, Ouédraogo, qui viennent du Burkina, mais en fait, ils viennent du Luxembourg, là, tout de suite. C'est eux qui m'avaient invité avec le frère Nicolas. On avait été avec le frère Nicolas là-bas. On était reçus comme des rois. C'était waouh, formidable. Et voilà, on a lié amitié. Et puis l'autre jour, il m'a envoyé un petit mot qui voudrait bien venir avec son épouse. Je dis oui, mais qui êtes-vous? Je me rappelais plus. Dites-leur que je suis comme ça, que j'oublie tout le monde, parce que sinon ils vont croire que c'est eux spécialement que j'oublie. Et non, j'oublie tous les noms. C'est terrible. Même les noms des jeunes, des fois dans la communauté, je mélange. Alors, je leur donne des surnoms, turlututu, chapeau pointu. En tout cas, on est très content de les recevoir aussi aujourd'hui avec nous. Et puis, je vais laisser la place à mon frère Adama. Vous vous rendez compte ce nom? Adama, Adam. Que Dieu te bénisse, mon frère. Recevez-le comme vous me recevez. Écoutez ce qu'il dit avec beaucoup de sérieux. C'est un homme de Dieu. Vous ne trouvez pas qu'il ressemble au pasteur Karanviri, vous? Hein? C'est curieux, hein? Non, moi je dis c'est pas vrai, c'est le frère Karanviri qui lui ressemble. En tout cas, il est bien courageux d'être venu dans l'Europe et en plus dans le nord, là-bas, dans le froid. Quelle horreur. Enfin, c'est un beau pays quand même, Luxembourg. Hein? C'est bien. Alors, c'est chouette. Non, mais quand même, il faut vous rendre compte, ceux qui sont allés au Burkina, vous savez comment on souffre, nous les Blancs, là-bas, hein? À cause du chaud. Eh bien, eux, c'est la même chose, mais à cause du froid. Eh bien, il faut être courageux. Moi, 3 semaines, ça me suffit. Vous, ça fait combien de temps que vous êtes là-bas? Oh mon Dieu, ça vaut un applaudissement. Dieu te bénisse. Merci, merci, merci. Alors, comme on dit toujours, pas plus de 3 heures.
Ah, d'accord. Merci beaucoup. Donc, 2h59, ça va encore. Nous sommes vraiment très heureux, mon épouse et moi, de partager ce week-end avec vous. On avait hâte de venir visiter le château, et pas seulement le château, mais surtout ceux qui habitent le château. Hein? Et nous avons déjà été émerveillés. On est arrivé tard la nuit, mais on a été émerveillés de voir. Parce que vous savez, Michel l'a dit quand il était au Luxembourg. D'ailleurs, je vais vous inviter à dire 2 choses à votre voisin. Hein? On peut le dire? Voilà. Tourne-toi vers ton voisin, tu dis, salut. Excellence. Excellence. Dites-lui, hein? Bonjour, excellence. Deuxième chose, dites-lui bonjour, E.T. E.T. Vous ne connaissez pas E.T. Extraterrestre. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul dit que nous, sur la terre, nous faisons office d'ambassadeur pour Christ. Donc vous êtes assis à côté d'un ambassadeur. Et comment vous appelez vos ambassadeurs ici en France? Excellence. Donc vous êtes assis à côté de son excellence. Amen. Et le même Paul dit que nous, notre cité à nous n'est pas sur cette terre. Où est votre cité? Dans les cieux, il dit, nous sommes tous des extraterrestres et des excellences. Alors, donc, parce que notre cité n'est pas de cette terre, il y a une dimension spirituelle qui nous permet de nous connaître même sans nous avoir vus. Hein? Vous comprenez ça, hein? Voilà. Alors, c'est pour dire que quand on vient dans un environnement, les esprits sont en communion. Alléluia. Donc déjà hier soir, nous étions tellement heureux de visiter votre environnement et on a senti que on allait bien se plaire parce que nous sommes ensemble dans la même cité. Alors merci beaucoup de nous accueillir si gentiment. Mon épouse, je vais vous inviter à vous lever, chère madame, hein, pour que voilà, voilà c'est. Celle avec qui je suis marié depuis maintenant plus de 30 ans. Dieu nous a fait la grâce de nous donner quatre merveilleux enfants, deux garçons, deux filles. Hein? L'aînée a eu ses 30 ans en septembre dernier, et puis la plus jeune a fêté ses 18 ans en mai. Voilà, donc c'est pour ça que vous voyez que je l'attrape un tout petit peu carambili. Gloire à Dieu. Alors ce matin, je voudrais que nous parlions ensemble. Est-ce que vous avez votre Bible? Tout le monde a sa Bible? Eh bien, si vous avez votre Bible, on va prêcher ensemble. Vous aimez prêcher? En tout cas, moi j'aime. Alors ce matin, même si vous n'aimez pas, je vais vous faire prêcher avec moi. Parce que je voudrais que nous puissions parler de l'adoration. L'adoration. La véritable adoration. Et comme je l'ai cité tout à l'heure, l'apôtre Paul dit que nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ sur la terre et notre cité est en haut dans les cieux. Si notre cité n'est pas de cette terre, eh bien, qu'est-ce qui se passe dans notre cité en ce moment? Et je voudrais que vous lisiez avec moi, enfin, que une personne, si vous voulez bien lire, Apocalypse chapitre 4, verset 1 à 11 pour une personne, et puis quelqu'un d'autre, et je souhaiterais que ce soit un homme qui lise Apocalypse 4, verset 1 à 11, et une femme lit Éphésiens 6, verset 1 à 3. Apocalypse 4, 1 à 11, et Éphésiens 6, 1 à 3, pour voir ce qui se passe dans notre cité, à l'heure où nous sommes, qu'est-ce qui se passe là? Est-ce qu'il y a un homme qui peut lire à haute et intelligible voix? Merci beaucoup, mon frère.
Habillés de vêtements blancs et portaient des couronnes d'or sur la tête. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre, et devant lui brûlent sept lampes ardentes qui sont les sept esprits de Dieu. Devant le trône, il y a aussi comme une mer de verre qui a la transparence du cristal. Au milieu et autour du trône se tiennent quatre êtres vivants, couvert Dieu devant et derrière. Le premier être vivant ressemble à un lion, le deuxième à un taureau, le troisième à le visage d'un homme et le quatrième ressemble à un aigle en plein vol. Les quatre êtres vivants ont chacun six ailes et ils sont couverts Dieu tout autour et à l'intérieur. Ils ne cessent de dire jour et nuit, « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. » Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 anciens se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, adorent celui qui vit au siècle des siècles et déposent leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. »
Amen. Amen. Éphésiens, qu'est-ce que j'ai dit? Ésaïe? Ésaïe? Qu'est-ce? Oui, dites-moi ce que j'avais dit. 6, verset 1 à 3. Une dame veut lire pour moi? Ésaïe. Le prophète Ésaïe. Le prophète Ésaïe, dans son chapitre 6, versets 1 à 3. J'avais dit quoi? J'avais dit Éphésiens. Il n'y a pas que Michel qui oublie, hein? Adama aussi oublie. Ésaïe. Prophète Ésaïe, chapitre 6, versets 1 à 3. Amen. Merci beaucoup. Seigneur, nous te bénissons pour ce dimanche. Tu as permis que nous soyons rassemblés en ce lieu pour contempler ce qui se passe autour de ton trône dans le ciel. Et nous voulons, à l'instar de ce qui se passe autour de ton trône dans le ciel, nous présenter devant toi sur cette terre où tu nous as placés en ce moment. Nous voulons que ta gloire se manifeste dans ce lieu. Seigneur Jésus, que les pans de ta robe remplissent ce temple. Tendre Père, que ta présence soit si manifeste au milieu de nous en ce moment. Parce que nous savons que chaque fois que ton peuple s'est rassemblé, tu as décidé de te manifester au milieu de ton peuple. Par ta présence, visite-nous. Et au terme de cette rencontre, que chacun puisse dire, oui, Dieu m'a visité. J'ai vu Dieu à l'œuvre. Il m'a touché. Il est descendu dans ma vie. Merci, Seigneur Saint-Esprit, de prendre la place qui te revient et de parler. Nous sommes disposés à t'écouter. Au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Je vous invite à vous asseoir. Alors, d'après ces deux textes que nous avons lus, vous vous rendez compte que l'activité principale dans le ciel aujourd'hui, c'est l'adoration. L'adoration. Tout ce qu'il y a autour du trône de Dieu l'adore. Donc, ça veut dire que nous, sur la terre, peuple de Dieu, notre activité principale devrait être l'adoration. Mais il y a adoration et adoration. C'est pourquoi Jésus disait à cette femme samaritaine, ne t'en fais pas, chère madame, parce que un jour vient, et ce jour est déjà venu, où les vrais adorateurs vont m'adorer en esprit et en vérité. Et Matthieu disait, c'est Jésus qui parlait par la plume de Matthieu, qu'il y a un certain peuple qui l'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de lui. Et ce matin, je voudrais que nous puissions examiner dans un texte du Nouveau Testament, en quoi consiste l'adoration? La véritable adoration, en quoi consiste-t-elle? Est-ce qu'elle consiste dans des chants bien orchestrés? Merci beaucoup à la louange, à ceux qui nous ont conduits dans l'adoration ce matin, c'était formidable. Mais est-ce qu'adorer Dieu, ça consiste avec les instruments et puis lever les mains pour vers le ciel? Est-ce que l'adoration, c'est avoir une belle chorale, parce que chez nous, on aime beaucoup la musique, hein. Michel l'a vu. On a des chorales qui chantent. Et vous savez quoi? Les blancs aiment la chorale des noirs au Luxembourg. Hein? Le 21 décembre, on a eu un dîner-concert. C'était plein. Certains même ont dû rentrer parce qu'il n'y avait plus de place pour asseoir les gens. Pour venir voir un concert gospel. Mais est-ce que c'est ça l'adoration? Alors, il y a un texte dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 2, et par des gens que vous ne citeriez pas parmi ceux qui pourraient vous expliquer ce que c'est que la véritable adoration, des mages. Hein? Est-ce que des mages, des astrologues, peuvent nous apprendre ce que c'est que la vraie adoration du Dieu vivant? Eh bien, vous allez voir, ces astrologues, mages, qui n'avaient rien à voir avec le peuple de Dieu, vont nous donner ce que c'est que la véritable adoration. Amen. Donc, le texte de base, tout ce que je vous ai dit, ce n'était que pour du beurre. C'est maintenant que la prédication commence. Alors, dis à ton voisin, attache la ceinture, parce que les 3 heures, vous avez dit pas plus de 4 heures ou 3 heures. Pas plus de combien d'heures? 3 heures. Alors, les 2h59 commencent maintenant. Matthieu 2, verset 1 à 12. Matthieu 2, versets 1 à 12. C'est notre texte de base et je me permets de vous le lire ce matin. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris tout cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux depuis où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui pètera Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux. Depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce que, étant arrivés au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Amen. Amen. Alors, voilà. Cette histoire de ces mages venant d'Orient pour faire quoi ? Pour adorer Jésus, le roi des Juifs qui venait de naître. Ces hommes vont nous donner quelques clés, quelques éléments dans notre approche de l'adoration. Parce que la véritable adoration, ce n'est pas seulement dans des chants. Ce n'est pas seulement dans des paroles. Mais la véritable adoration, c'est par des actes. Et ce que ces hommes vont faire dans ce qu'ils appellent adoration, les actes qu'ils vont poser, eh bien, constituent pour nous les actes de la véritable adoration. Et si nous voulons vraiment dire que nous avons adoré Dieu, nous ne pouvons le faire que quand effectivement nous aurons au moins accompli ces quatre actes que les mages vont faire pendant leur trajet. Vous me suivez jusqu'ici? Alors, vous voulez savoir quels sont ces actes qu'ils ont posés? Amen. Alors dis excellence à votre voisin, dites excellence. Écoute bien. Premier acte de la véritable adoration. Le premier acte de la véritable adoration, c'est ce que j'appelle le sacrifice. Et vous avez lu avec moi, au verset 2, que je peux me permettre? Je peux descendre? Oui? D'accord. Et parce que j'ai peur de cette caméra, je ne sais pas si c'est filmé. Hein? Voilà. Alors, cher caméraman, tu vas avoir du boulot avec moi ce matin. Voilà, donc enlève ta caméra. Alléluia. Je fais souffrir toujours les caméramans. Dans le verset 2, il est dit que c'est au verset 1er. Quand Jésus est né à Bethléem, ses mages sont venus d'où? Hein, cher ami? Les mages sont venus d'où? D'Orient. Donne la main. Give me five. Les mages sont venus d'où? D'Orient. Et ils sont partis où? Ils sont venus d'Orient à Jérusalem. Alors, je ne sais pas si en France, on vous enseigne la géographie comme chez nous au Burkina. Vous savez, quand on était à l'école, hein, on a appris la géographie de la France, de la Russie, des États-Unis, l'Asie, l'Inde. On a appris tout ça. Et j'étais surpris quand je suis arrivé en France de parler de certaines villes à des gens qui habitent Pont-de-Mer à côté ici et ils ne savent pas où ça se trouve. J'ai dit, mais c'est dans votre pays. Hein? Ils ne savent pas où ça se trouve. Nous, on était obligés de connaître tout ça. Il y en a qui ne savaient même pas combien d'habitants avait la France. Et moi, je venais de mon petit Burkina, je savais combien. À l'époque, c'était 55 millions d'habitants. Maintenant, vous en avez 60 millions. Hein? Hein? La géographie. Ils sont venus d'Orient à Jérusalem. Tu t'appelles comment? Benjamin. C'est ta petite sœur. Ah ben, tu n'étais pas le Benjamin. Où est ton papa? Mauvais nom. C'est toi la Benjamine. De l'Orient à Jérusalem, Benjamin, est-ce que tu t'imagines combien de kilomètres ça fait? Les adultes qui ont fait de la géographie, vous vous imaginez que ça fait combien de kilomètres? Combien? Plusieurs milliers. Eh bien, voilà. Ça fait minimum, la plus courte distance, c'est 1000 kilomètres. Benjamin, 1000 kilomètres. Tu sais combien de distance? C'est long, hein? Et tu sais comment ils sont venus de l'Orient à Jérusalem, minimum 1000 kilomètres? Comment ils sont venus? En avion, avec Air France? Avec Air France? À pied. Lui, il pense que c'est à pied. Toi, tu penses qu'ils sont venus avec quoi? Je ne sais pas. Et toi, tu t'appelles comment? Éline. Élise. Très beau nom. Tu crois qu'ils sont venus comment, Élise? À pied. Eh bien, je vais vous apprendre que ce n'était pas à pied, parce que c'était quand même long. Mais c'était à dos de chameau. Tu es déjà monté sur un chameau? Quelqu'un est déjà monté sur un chameau? Peut-être Michel, hein? Hein? C'est agréable, hein? Est-ce que c'est agréable? Vous avez l'impression d'être sur la mer. Hein? Ça monte, ça descend, et puis on est... C'est fatigant. C'est épuisant de monter sur un chameau. Et de faire combien de kilomètres? Minimum 1000 kilomètres. Est-ce que vous pouvez représenter des hommes qui ont quitté leur femme, ils ont quitté leurs enfants, ils ont quitté leur famille, ils ont quitté leur confort, Dieu bénisse le motel où nous avons dormi. Ils ont quitté tout ça. Et ils ont risqué de se perdre dans le désert, même de mourir dans le désert, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau dans le désert. Il n'y a pas beaucoup de nourriture dans le désert, Élise. Et pour ce trajet, il leur fallait au moins un mois pour aller, un mois pour revenir. Comment vous qualifiez cet acte qu'ils ont posé, sinon le sacrifice? C'est un acte de sacrifice. Dans le seul but d'aller faire quoi? Adorer le roi des Juifs qui venait de naître. Vous vous imaginez ces astrologues qui ne connaissent pas Abraham, Isaac, Jacob. Et nous qui connaissons le Seigneur, le Sauveur de gloire, est-ce que nous pouvons venir adorer Jésus sans un acte de sacrifice? La véritable adoration commence par un acte de sacrifice. Sacrifice de notre vie. Sacrifice de notre temps. Quand au milieu de ce monde-là où on n'a pas le temps, vous savez, les gens n'ont pas le temps. Hein? Il y en a qui ne travaillent pas, mais ils n'ont pas le temps. Hein? Ils sont occupés à regarder la télé du matin au soir. Ils n'ont pas le temps. Mais dans ce monde-là où personne n'a le temps, si vous pouvez prendre une heure, deux heures pour consacrer ce temps-là à Dieu, ça c'est la véritable adoration. Si dans ce monde où tout le monde veut tout pour soi, vous savez prendre de vos biens pour l'œuvre de Dieu, c'est ça la véritable adoration. Vous avez beau chanter, vous avez beau orchestrer des choses, si vous ne venez pas avec un acte de sacrifice, ce n'est pas de l'adoration. Amen. Benjamin, est-ce que tu es prêt à faire un sacrifice ce matin? Un vrai sacrifice. C'est ça la véritable adoration. Parce que quand vous adorez Dieu vraiment de tout votre cœur, il va vous amener dans des actes de sacrifice. Alléluia. Je me rappellerai toujours, quand j'étais à l'école biblique, mon épouse venait de me rejoindre avec nos deux enfants à l'époque. On n'avait pas de bourse en Belgique. Et la vie n'était pas facile. C'était assez difficile, même très difficile. Et un jour, une dame, pas loin d'ici, je parlais de Pont-Audemer, une dame de Pont-Audemer, qui m'a vu juste un soir. J'étais passé dans l'église un soir pour une réunion de prière. Et je suis retourné. Cette femme-là, pendant qu'elle priait, elle entend Dieu lui dire, ce petit Africain-là qui était venu prêcher un mercredi soir, il faut que tu lui envoies un chèque de 10 000 francs, francs français à l'époque. C'était beaucoup d'argent pour moi. 10 000 francs, pas anciens francs, hein. 10 000 francs. En 1988. Et elle demande à son pasteur, et puis après explication, ils comprennent que c'est moi. Et elle met le chèque. Elle donne à son pasteur, qui m'envoie ça en Belgique, en disant simplement que Dieu te bénisse. Et c'était un moment où j'avais un très grand besoin. Et c'est venu juste à temps pour que je puisse assumer ce besoin-là. Est-ce que vous m'entendez? C'est pour vous dire ce matin, hein, maintenant que nous sommes en train d'adorer Dieu, ne soyons pas distraits. Gardons une oreille attentive. Que ce soit ici, que ce soit à la maison, dans notre temps d'adoration, soyons attentifs. Parce que Dieu va nous donner des actes que nous devons poser, des actes de sacrifice. Et c'est ça la véritable adoration. Nous ne pouvons pas dire que nous avons adoré Dieu si nous n'avons pas associé un acte de sacrifice. Amen. Ça va jusqu'ici? Deuxième acte de la véritable adoration. Tu veux le savoir? Donc toi, tu es prêt au sacrifice. Tu es prêt à donner ton temps. Hein? Oui, donner ton temps. Oui, hein? Pour le servir. Mm-hmm. C'est bien. Il n'y a pas d'âge. Hein? Hein? Vous êtes mamie. Hein? Vous êtes... en plus, est-ce que vous êtes prête au sacrifice pour le Seigneur? Il n'y a pas d'âge. Les petits-fils, les mamies, les papis, tout le monde. Dieu nous appelle à un véritable acte de sacrifice quand nous voulons vraiment l'adorer. Le deuxième acte, Élise, tu veux le savoir? Ok. Donc le premier acte, c'était quoi? Celui que nous venons de voir. Le sacrifice. Tu es formidable, encore une fois. Le deuxième acte, c'est l'humilité. Vous lisez que quand ces mages sont arrivés, ils ont vu le lieu où était le petit enfant. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous avez lu avec moi, dites-moi. Ils se sont prosternés. Ils se sont prosternés. Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est que prosterner? Dans ce sens-là que je viens de vous dire. Est-ce que vous comprenez ça? Benjamin, tu comprends? Hein? Oui? Comme toi, tu es un peu sportif, viens, je te montrer. Viens ici. Voilà. Prosterner, ça vient du terme latin humus. Et vous savez, l'humus, c'est la terre. La terre. Humilité, ça vient de humus. La terre. Parce que prosterner veut dire s'incliner le visage contre terre. Oui? Vas-y, le visage contre terre. Ah? C'est au minimum ça. C'est au minimum ça. Sinon, c'est à plat ventre, le visage contre terre. Oui? Le visage contre terre. Merci beaucoup, Benjamin. Est-ce que nous pouvons applaudir, Benjamin? L'humilité, c'est ça, l'humus. Aussi bas que la terre. Et l'humilité, c'est un véritable acte de la véritable adoration. Nous ne pouvons pas adorer Dieu d'égal à égal. Est-ce que vous pouvez adorer Jésus d'égal à égal? Mais vous savez ce que les chrétiens du 21e siècle font? Jésus, c'est mon ami. Jésus est mon ami de tous les jours. Nous, on chante ça. Hein? Hé, hey, Jésus n'est pas ton ami. Hein? Jésus est ton maître. Alléluia. Il est mon maître. Il est mon Seigneur. Alors, quand nous venons à Jésus, on dit, oui, tiens, mon ami, qu'est-ce que vous faites avec vos amis aujourd'hui? Tu as des amis, hein? Oui, qu'est-ce que vous en faites? Aujourd'hui, on est amis. Et demain, on n'est plus amis. Vous regardez les séries télévisées. Aujourd'hui, on est ensemble. Demain, on n'est plus ensemble. Aujourd'hui, on a une, on est marié avec une femme. Demain, on n'est plus avec la même femme. C'est ça qui se passe dans les séries télévisées, n'est-ce pas? On marie, on divorce, on se remarie, on le divorce, on se remarie, on se redivorce. Vous comprenez? Jésus n'est pas notre ami. Jésus est notre patron. Il est notre maître. Il est notre Seigneur. Et vous allez vous rendre compte. Je vous ai fait lire ce passage. Apocalypse. Vous savez ce que l'auteur de l'Apocalypse, c'est Jean. Hein? Jean, la Bible l'appelle le disciple que Jésus aimait. Et vous savez ce que le disciple que Jésus aimait faisait quand Jésus était sur terre? C'est le seul disciple qui était capable d'aller mettre sa tête contre l'épaule de Jésus. Le disciple que Jésus aimait. Donc, si on pouvait parler d'ami, c'était lui le vrai ami de Jésus, hein? N'est-ce pas? Mais vous avez lu, dans le chapitre 1, quand Jean a vu Jésus dans toute sa gloire, il a été transporté en esprit. Et il s'est retrouvé devant le trône de Jésus. Il voit cet homme qui était habillé d'une robe blanche avec une grosse ceinture d'or. Et il était extraordinaire. Quand il a vu cet homme de cet aspect-là, qu'est-ce que Jean dit? Il est tombé par terre comme un homme mort. Alors si tu n'es jamais tombé devant Jésus, c'est que tu n'as pas encore vu sa gloire. Parce que le jour où tu rencontres la gloire de Jésus, tu ne tiendras pas debout. Vous avez lu Esaïe, pas Éphésiens, hein? Esaïe 6, et qu'est-ce qu'il dit? L'année de la mort du roi Ozias, qu'est-ce qu'il a vu? Le ciel ouvert. Il a vu le ciel ouvert. Et Dieu assis sur son trône et les pans de sa robe qui couvraient le temple. Quand il a vu cet aspect-là, qu'est-ce qui s'est passé avec Esaïe? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il était aussi tombé comme mort. Il dit, misérable que je suis. Hein? Je suis un pécheur et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont des lèvres pécheresses. Un prophète, vous connaissez Esaïe, hein? C'était un des grands prophètes, n'est-ce pas? Excellent prophète. Et quand il a vu Jésus dans toute sa gloire, il a vu Dieu. Dans la gloire de Dieu, il ne pouvait pas se voir autrement que, voilà, un moins que rien. Passez-moi l'expression. Parce que plus vous vous approchez de Dieu, plus vous vous rendez compte de votre misère. Le jour où vous croyez que vous êtes suffisamment saint, c'est que vous n'avez pas encore rencontré vraiment Dieu. Plus vous vous rencontrez, vous vous approchez de lui, plus vous vous rendez compte que vous êtes sale. Parce que Dieu est saint. Il est extrêmement saint. Alléluia. Alors nous ne pouvons pas nous approcher de lui avec, vous voyez, les épaules rehaussées. Il faut nous approcher de lui avec humilité. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jésus a parlé de cet homme qui était entré dans le temple pour prier. Et il a rencontré un autre homme qui était venu prier, le publicain et le... Vous connaissez l'histoire, hein? Hein? Qu'est-ce que le pharisien faisait? Le pharisien. Ouais, lui c'est un descendant d'Abraham, hein? Le pharisien, descendant d'Abraham, fils de la promesse, ciel garanti. Ça c'est ce qu'il se disait. Il s'arrête là et dit, ouais, Seigneur, moi, je te bénis, je te loue parce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Hein? Je ne suis pas comme le reste. D'ailleurs, regarde celui-là. Je ne suis pas comme lui. Le reste des hommes, ils ont ravisseurs, mauvais. Moi, je jeûne 2 fois par semaine. Et je donne ma dîme sur tout ce que tu me donnes. Je ne suis pas comme ce publicain-là. Et pendant ce temps, ce publicain, un escroc, parce que, vous savez, ça n'a pas commencé aujourd'hui, hein? Les gens des impôts qui mettent de côté, ça, c'est depuis la nuit des temps. Hein? Alors, quand on te disait de payer 10 euros d'impôts, lui, il vient et dit 12. Il met les deux dans sa poche. C'était son travail. Vous vous rappelez? Quand Matthieu a été libéré de cette affaire, il a dit, j'ai vraiment magouillé, j'ai spolié des gens, alors je vais restituer tout ce que j'ai volé. Et ce publicain-là, escroc, voleur, tout ce que vous pouvez vous imaginer, il était là. Il dit, Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi qui suis un pécheur. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait. Jésus dit que des deux hommes, il y en a un qui est parti dans sa maison justifié, et puis l'autre est parti condamné par ces mêmes paroles. L'adoration de qui a été agréée parmi les deux hommes? Benjamin. Le pharisien ou le publicain? L'escroc ou le religieux? Le pharisien. C'est l'adoration du pharisien qui a été agréée. Parce qu'il est descendant d'Abraham. Parce qu'il est chrétien. Priant à Sanctuary. Non. C'est le publicain. Cet escroc-là. C'est pourquoi Jésus disait justement à ces religieux. Attention. Les prostituées et les voleurs vont vous devancer dans le royaume de Dieu. Donc nous, c'est un message pour nous tous. On peut se sentir parfois tellement saint que l'on oublie que la véritable adoration s'accompagne toujours avec un acte d'humilité. Et l'humilité, c'est de reconnaître sa petitesse devant Dieu. C'est de reconnaître sa dépendance de Dieu. Vous savez, il y a une certaine attitude orgueilleuse qui fait croire que nous pouvons nous en sortir seuls, surtout dans cette Europe-là. Vous avez la mutuelle. En Belgique, on dit la mutuelle. Ici, on dit quoi? La sécu. Vous avez quoi encore? La mutuelle. Et quoi encore? La pension. Et quoi encore? Vous avez tout. Donc, ce qui fait que, parce que je le vois au Luxembourg, on n'a pas besoin de Dieu. On est suffisant. On a tout ce dont on a besoin. Vous voyez? Ça, c'est l'orgueil. Même si tu es Bill Gates, tu ne peux pas t'en sortir seul. Parce qu'il suffit qu'un petit cancer de rien du tout frappe le pancréas de Bill Gates et il sera comme Steve Jobs. Vous entendez? Donc vous avez la santé parce que Dieu vous donne la santé. J'ai la famille que j'ai parce que Dieu m'a fait grâce. J'ai les enfants que j'ai parce que Dieu m'a fait grâce de me donner des enfants. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On a des enfants, c'est comme si, ça y est, oui, je les ai eus par moi-même. Non, non, tes enfants sont un don de Dieu. Alléluia. Parce que je connais des gens fortunés, avec beaucoup d'argent, qui veulent juste avoir un enfant, mais impossible de l'avoir, parce qu'ils sont stériles. Ils ont dépensé des fortunes, mais il n'y a pas moyen. Ils doivent adopter où il doit faire je ne sais pas quoi. Vous comprenez? Et vous avez des enfants. C'est un don de Dieu. C'est un cadeau de Dieu. Alors chaque matin, nous devrions dire simplement merci Seigneur pour les enfants que tu nous as donnés. Merci Seigneur pour l'épouse que tu m'as donnée. Hein? Merci pour l'époux que tu m'as donné. Hein? Oui, oui, oui. Il faut le remercier. Il y a des femmes qui veulent un vrai mari. Hein. Elles ne peuvent pas avoir. C'est pour ça qu'elles se marient, elles se remarient. On cherche toujours et puis on ne trouve pas. Mais toi, tu as l'homme que Dieu a donné. Hein? Ça fait combien d'années que vous êtes mariés? 19 ans. Alors, pendant 19 ans, vous êtes ensemble. Et vous allez rester jusqu'à ce que la mort vous sépare. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de dire merci au Seigneur? Ça vaut le coup. Donc c'est ça l'humilité. Reconnaître qu'on est dépendant de Dieu. Les études, ce n'est pas l'intelligence de Benjamin qui va te permettre de réussir. C'est Dieu. Donc tout dépend de Dieu. Même si tu es le premier de la classe de la sixième en terminale, c'est la grâce de Dieu qui te donne de réaliser ces choses. Donc on ne vient jamais à Dieu avec une attitude orgueilleuse. Il y a l'orgueil spirituel. Je le vois parce que je viens d'une dénomination où on a souvent été orgueilleux. Hein? Je suis un pasteur ordonné des assemblées de Dieu du Burkina Faso. On est les meilleurs. Personne d'autre ne va au ciel que par les assemblées de Dieu. Quel orgueil! Hein? Et tout ce qui n'est pas assemblée de Dieu, c'est mauvais. Non, c'est ça. C'est une attitude orgueilleuse. Et nous ne pouvons pas dire que nous avons adoré Dieu avec une telle attitude. Donc, deuxième attitude, quand nous venons adorer Dieu, c'est l'humilité. Il faut savoir que tu ne peux pas arriver tout seul. Tu as besoin de Dieu. Dis à ton voisin, tu as besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu. Tu ne vas pas y arriver tout seul. Si Dieu se retire de ta vie, c'est fini. Amen. Donc, nous avons vu jusqu'ici combien d'attitudes? Deux. Le premier, la première, le sacrifice. La deuxième, l'humilité. Et la troisième attitude, c'est la libéralité. Comment vous dites ça? La générosité, ou un autre terme français. Générosité, libéralité, le don, voilà. Partage, voilà. Utilisez tout ce que vous voulez. Mais sachez que ces hommes-là, quand ils sont venus voir Jésus qui était né, au verset 11, quand ils sont arrivés, ils ont ouvert leur bourse. Dis à ton voisin, ouvre ta bourse ce matin. Faut ouvrir la bourse. Ils ont ouvert leur bourse. On ne peut pas dire qu'on a adoré Jésus si on ne l'a pas accompagné avec des actes de libéralité, de générosité. Ils arrivent, ils voient Jésus, ils sont tellement contents qu'ils ouvrent leur bourse. Et ils donnent trois choses. Qu'est-ce qu'ils ont donné? De l'or. Waouh! Ils ont donné de l'or, de la myrrhe et de l'encens. Trois choses précieuses qu'ils ont données à Jésus. C'était beaucoup de choses pour eux. Ils auraient pu garder l'or, l'encens et la myrrhe pour leur voyage retour. Ils auraient pu le garder pour eux, mais ils ont dit non. Nous sommes venus pour adorer ce roi des Juifs qui venait de naître. Il faut accompagner cette adoration avec un acte de libéralité. Et ils ont donné libéralement. Non, librement, généreusement. Voilà. Ils ont donné généreusement. Et ton nom, c'est comment? Lucas. Ta caméra est... La batterie est foutue. Non. C'est ce qui m'arrive toujours. La technologie n'est même pas beaucoup. Ils ont donné généreusement. Écoutez-moi bien. Une vraie adoration s'accompagne toujours d'un acte de générosité. Et c'est pourquoi les proverbes disent que quand vous donnez à un pauvre, vous prêtez à l'Éternel. L'adoration va de pair avec la libéralité. Donc quand nous venons, comme dans un culte ce matin, eh bien je l'ai dit, il faut savoir ouvrir sa bourse pour bénir l'œuvre de Dieu, pour bénir les hommes et les femmes que Dieu a créés. Parce que quand nous donnons aux pauvres, c'est à l'Éternel que nous prêtons. Alléluia. Et vous savez quoi? Vos ancêtres, hein? L'ont tellement bien compris qu'ils ont créé des organisations humanitaires qui ont béni le monde entier, qui continuent de bénir l'Afrique, qui continuent de bénir les pauvres. Et je dis toujours aux Européens, vous êtes en train de détruire, de couper la branche sur laquelle vous êtes assis. Pourquoi? Parce que cette Europe a été bâtie sur les fondements de la culture judéo-chrétienne. Et aujourd'hui, on évacue Dieu de l'Europe. Partout, on n'a plus besoin de Dieu, on est suffisamment intelligent, on peut réaliser les choses comme on le veut, parce que la science est là, la technologie est là. Et vous voyez vers où on conduit l'Europe, la décadence totale. Et si le reste que nous sommes, que vous êtes, le reste, parce que Dieu est un Dieu extraordinaire, il n'accepte jamais, au grand jamais, tout ne sera détruit sans qu'il y ait un reste. Même au temps du déluge, il y a 8 personnes qui sont restées. Dieu se préserve toujours un reste. Quand Élie était en fuite, il dit, je suis resté moi seul. Il est dans la dépression, dans le désert. Dieu lui dit, non, Élie, tu n'es pas seul. Il y a encore 7000 prophètes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Il y a toujours un reste. Donc, que toute l'Europe se ligue contre Jésus et que toutes les nations en Europe disent qu'ils ne veulent plus de Dieu, il y aura toujours un reste qui va croire en Dieu et qui va adorer Dieu, qui va continuer de perpétuer la grâce et la présence de Dieu sur la terre. Et vous êtes parmi ce reste-là. Alors, c'est important que nous le comprenions et que nous sachions que l'adoration que nous apportons à Dieu doit s'accompagner avec des actes de libéralité. Que chacun prenne sa place, hein, dans cette tâche. Et la gloire de Dieu va se manifester. Amen. Dernière chose. Le quatrième acte. Donc, on a vu combien jusqu'ici? Premier acte de la véritable adoration. Benjamin, tu vas avoir du mal avec moi. Allez, un. Premier acte de la véritable adoration. Le sacrifice. Deuxième acte de la véritable adoration. L'humilité. Troisième acte de la véritable adoration. La libéralité. Give me 5. Yes. Quatrième acte de la véritable adoration. Et ça, c'est le plus compliqué. C'est l'obéissance, mamie. L'obéissance. Au verset 12. Vous vous rappelez que Hérode avait dit à ses mages, allez chercher où se trouve le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, revenez me dire afin que moi aussi je puisse aller. Est-ce que Hérode cherchait l'enfant pour aller l'adorer? Non, il cherchait l'enfant pour aller... C'est ce qu'il voulait faire. Et au verset 12, il est dit que, divinement averti par un ange de ne pas retourner vers Hérode, les mages se résignèrent à regagner leur pays par un autre chemin. Est-ce que vous savez ce que les mages risquaient si Hérode les attrapait? Hein, mon frère, qu'est-ce qu'ils risquaient? Exactement la même chose que Hérode voulait faire aux petits enfants, c'est ce qu'il allait leur faire. Il savait que si Hérode apprenait qu'ils étaient en train de retourner chez eux, si Hérode les prenait, il allait les tuer. Ils allaient mourir. Mais ils ont préféré obéir à Dieu plutôt qu'à celui qui a le pouvoir de les tuer physiquement sur la terre. C'est ce que les disciples, les apôtres ont dit au Sanhédrin, c'est-à-dire ce tribunal religieux réuni, quand ils ont dit à Pierre, Jacques, Jean, ne prêchez plus au nom de ce Jésus-là. Vous pouvez aller parler de tout, mais ne parlez plus de Jésus. Parlez de la pluie, parlez du beau temps, parlez de la sorcellerie, parlez de tout, mais pas de Jésus. Et puis, ils disent, hein, jugez-en vous-même. Est-ce qu'il est convenable de désobéir à Dieu ou de vous obéir? Disons, nous ne pouvons pas nous empêcher de parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Dis à ton voisin, si tu n'as rien à dire, c'est parce que tu n'as rien vu et parce que tu n'as rien entendu. Dis-lui. Si tu n'as rien à dire comme témoignage, c'est parce que tu n'as rien vu et tu n'as rien entendu. Si tu as vu quelque chose avec Jésus, tu as entendu quelque chose avec Jésus, tu ne peux pas te taire. Tu vas le témoigner. Alléluia. Même dans ce monde-là où on ne veut pas entendre parler de Jésus. Je bénis Dieu pour mon frère qui a le courage. Vous savez, je suis sûr que si son patron a accepté qu'il fasse ce qu'il fait, c'est parce qu'il a été persévérant dans l'affaire. Alléluia. Vous croyez que le patron a un jour s'est remarqué que... Comment vous vous appelez? Alain. Alain est chrétien, il vient et dit, Alain, allez, vas-y. Je te donne la permission de parler de Jésus. Ça s'est passé comme ça? Non, certainement pas. Donc Alain a parlé, Alain a parlé, Alain a parlé. Et peut-être que certains ont dit, mais c'est qui ce Alain là? Pourquoi il se croit que ici nous sommes dans une église? Pourquoi il parle de son Jésus? Et puis, le patron a entendu et le patron n'a rien dit. Le patron a entendu, le patron n'a rien dit. C'est comme ça que l'autorisation a été comme acquise. N'est-ce pas? L'obéissance. Et ces mages disent à Hérode, nous ne pouvons, enfin ils n'ont pas dit, hein? Comme les disciples de Jésus devant le Sanhédrin, les mages, quand ils ont entendu de ne pas retourner vers Hérode, ils ont regagné leur pays par un autre chemin. L'obéissance. L'obéissance. L'obéissance, c'est l'ultime acte de la véritable adoration. Nous ne pouvons pas dire que nous adorons Dieu si nous ne savons pas lui obéir. Si nous ne pouvons pas lui obéir. Et ça, c'est très dur. C'est très compliqué. C'est pourquoi Jésus, quand il était dans ce temps d'agonie dans le jardin de Gethsémané, la Bible dit que c'était tellement sévère que sa sueur était devenue du sang. Il transpirait du sang. La sueur. Lisez Matthieu 26. Du sang. Et il dit à ses disciples, mon âme est triste jusqu'à la mort. Et par trois fois, il va se jeter à genoux devant le Père en disant, mon Père, est-ce que c'est possible que cette coupe que je dois boire, si c'est possible qu'elle s'éloigne de moi, s'il y a une autre solution, fais-la. Parce que c'est tellement dur à porter. Et le Père lui dit, mon fils, il n'y a pas d'autre solution. C'est le chemin, le seul chemin par lequel l'humanité peut être sauvée. Il dit alors, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est ça l'obéissance. Savoir dire à Dieu, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Quel que soit ce que cela va me coûter, même ma vie, que ce que tu veux se fasse dans ma vie. C'est ça la véritable obéissance. Et c'est ça le véritable acte de la véritable adoration. Venir à Dieu en obéissant à sa parole, en obéissant à ses injonctions, c'est comme ça que nous pouvons dire que nous avons adoré Dieu. Alléluia. Je ne te demande pas parce que toi tu es tout jeune. Mais quels sont les plus âgés ici? Qui est le plus vieux de... Moi je suis le plus vieux de l'église hein, à Luxembourg. Hein? Qui est le plus vieux ici? Vous savez pas? Hein? C'est Rachel ou c'est... Hein? Et vous êtes comment? Vous vous appelez? Rachel. Hein? Simone. Rachel ou Simone? Hein? C'est Rachel qui est la plus âgée. Dieu vous accorde une longue vie encore. Hein? Mais de votre vie qui semble être la plus longue parmi tous ceux qui sont là, est-ce que vous avez déjà vu Dieu? Non. Vous n'avez pas vu Dieu encore? Simone, vous l'avez vu? Par l'esprit. Hein? Mais par... Ouais, vous ne l'avez pas vu. Mais par l'esprit, seulement par l'esprit. Hein? Bon, quelqu'un a déjà vu Dieu? Voilà, c'est pour vous dire, hein, quand on parle d'obéir à Dieu, là, ne soyez pas spirituel. Allô? Parce que les chrétiens sont toujours dans les nuages. Oh Dieu, 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 Dieu. Vous ne l'avez jamais vu. Alléluia. La personne que Dieu, par qui Dieu parle et au travers de qui il se révèle, c'est votre pasteur. Alléluia. Je n'ai pas dit qu'il est Dieu. Quoique. Vous connaissez le psaume, non? Je vous ai dit que vous êtes des dieux. Alléluia. Mais je veux que nous ramenions la dimension de l'obéissance à ce qui est visible sur la terre. Donc, si vous êtes dans une communauté comme celle-ci, avec un responsable mandaté par Dieu, hein, la soumission à Dieu, c'est la soumission à ses injonctions à lui. Est-ce qu'on se comprend? Alléluia. Et Paul dit, soumettez-vous les uns aux autres. Si nous voulons nous soumettre à Dieu, nous nous soumettons les uns aux autres. Alléluia. C'est ça la soumission. C'est ça l'obéissance. Alléluia. Donc, chère madame, la soumission à Dieu passe par la soumission à... Et ensuite, à chacun d'eux, des frères et sœurs. Et ensuite, vous voyez, ça ce sont les chrétiennes. Hein? Éphésiens 5, femme, encore une fois, femme, soyez soumises. Allô? Est-ce que vous m'avez entendu? Maintenant, c'est le silence. Hein? Mesdames, vous m'avez entendu? Qu'est-ce que la Bible dit, femme? Femme? Merci, ma soeur. Femme? Soyez soumise à vos maris. Alors, une femme qui refuse de se soumettre à son mari, qui vient... Zéro. Tu peux parler en langue, tu peux raconter ce que c'est. Allô? Parce que l'obéissance à Dieu, ça commence par là. Amen. L'obéissance à Dieu, homme, à la suite de femme, soyez soumise à votre mari. Qu'est-ce que Dieu dit, homme? Mari? Aimez vos femmes. Comme l'Église. Attendez. Aimez vos femmes comme? Comme l'Église. Comme Jésus aime l'Église. Femmes, soyez soumises à votre mari. Et mari, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Alléluia. Et dites-moi comment Christ a aimé l'Église, cher monsieur. Il a donné, non, j'ai dit monsieur. Vous êtes jusqu'ici, vous êtes madame. Hein? Il a donné sa vie pour ses disciples. Il a donné sa vie pour l'humanité. Jésus est mort. Est-ce qu'il y a un homme ici qui est prêt à mourir pour sa femme? Allô? Entre nous, disons-nous la vérité. Est-ce que vous allez mourir pour votre femme? Hein? Ça, c'est chrétien. Mais écoutez-moi bien, c'est vraiment ça la réalité. Si nous voulons dire que nous adorons Dieu, ça commence dans les simples choses, les choses de base. Le mari aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. La femme se soumet à son mari. Enfin, la suite, soumettez-vous, obéissez. Le terme employé, c'est obéissez à vos parents selon le Seigneur. Et il ajoute, hein, c'est le premier verset avec... une promesse. Est-ce que tu connais la promesse? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Tu veux être heureux? Tu veux vivre longtemps sur la terre? Tu veux pas vivre longtemps sur la terre? Oh, Benjamin, tu me fais peur là. Hein? Tu veux vivre combien de temps? Hein? 60 ans. Mais c'est déjà beaucoup, hein? Hein? Allez, mais tu dois vivre plus longtemps. 90 ans. Robuste. Encore fort. Hein? Vous savez, mon beau-père, il est mort à 87 ans, encore roulant sur sa mobilette, hein, allant prêcher l'évangile. Hein? C'est pour ça qu'il dit, pour que tu vives longtemps et que tu sois heureux. Vivre longtemps et être heureux. Si vous voulez vivre longtemps et être heureux, la condition, c'est d'obéir à vos parents. C'est ça. L'obéissance, là, c'est ça. On ne peut pas dire oui, c'est l'obéissance à Dieu sans que les enfants se obéissent à leurs parents, que les femmes se soumettent à leurs maris et que les maris aiment leurs femmes. Est-ce qu'on se comprend? Alors, si nous voulons dire ce matin que nous avons adoré Dieu, ce sont ces quatre actes que nous devons poser. Et je termine en révisant ces quatre actes. Premier acte de la véritable adoration, caméraman, le sacrifice. Deuxième acte de la véritable adoration, Élise. L'humilité. Troisième acte de la véritable adoration. J'ai oublié déjà ton nom. Benjamin. Hein? vient à son secours, Benjamin. Troisième acte. Tu l'avais déjà dit. Hein? La générosité. Et le dernier acte, l'obéissance. L'obéissance. Donc, je vous appelle donc ce matin, chaque fois que vous voulez dire que vous adorez Dieu, associez ces quatre actes. Parce que sans ces quatre actes, il n'y a pas de véritable adoration. Vous pouvez dire que vous avez adoré, mais il n'y a pas eu d'adoration. Amen. Alors soyez bénis. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Et que 2014 soit une année de tous les déblocages dans votre vie, au nom de Jésus. Amen. Désolé encore de vous avoir tenu si longtemps.
Très bon. Merci, pasteur. Merci. Amen. Les musiciens, merci.